9h48, François Gagnon, rebonjour oui. Officiellement.
Rebonjour officiellement.
Tantôt, on parlait de succession, puis on parlait de ces fameux testaments. Puis tu as eu plusieurs questions la semaine dernière suite à ta chronique. Et il y en a deux où ça recoupait plusieurs demandes là, que tu as reçues.
Oui, effectivement. La première vient de Christine. Elle dit qu'elle est mariée, elle a un testament, son mari n'en a pas. Et pas d'enfant, une maison, une hypothèque. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un accident, que les deux décèdent? Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Alors, on appelle ça habituellement les fameux décès simultanés. Alors, Marc, pour établir un décès simultané, il faudrait quasiment qu'il y ait une explosion, là, selon la loi. Mais la majorité du temps, on va essayer de savoir qui est décédé en premier. Mais dans votre testament, habituellement, c'est là qu'est le problème pour ces deux personnes-là, parce qu'on peut ouvrir une boîte de Pandore, là, surtout pour le monsieur qui n'a pas de testament. On le sait, on en a parlé un peu la semaine dernière, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de testament, et c'était lui qui décédait le dernier, et qu'il respectait peut-être la clause de décès simultané qui a... certainement dans le testament de madame, parce qu'il a été rédigé par un notaire, ben là, ça pourrait causer des problèmes successoraux très importants. Alors, le meilleur conseil qu'on peut donner à ce monsieur-là, c'est allez voir le notaire de madame et faites-vous faire un testament, parce que ça pourrait peut-être éviter la double imposition. Ça peut éviter aussi des problèmes de succession et des grosses chicanes qui pourraient arriver par la suite.
Autre élément, tu as reçu une question de
Annie Ginilla. Oui, là, c'est un méchant problème et malheureusement, ça arrive trop souvent parce qu'on dit que tu sais qu'une personne révèle sa vraie personnalité au moment de la perte d'un proche. Oui. Ben, je pense que c'est ce qui est en train de se passer là-dedans. Son père est décédé, il y avait beaucoup de sous, il s'est remarié. 3 enfants, 2 du premier lit, 1 de la dernière femme. Son frère le plus vieux, donc du premier lit, devait être exécuteur testamentaire. Ils sont fait tasser. C'est l'épouse du père, la deuxième épouse, qui veut pas montrer le testament. Pourtant, on est inscrit sur les papiers. Son frère a eu le temps de lire la première page avant qu'elle le lui enlève. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf les 3 choses suivantes. La première, c'est peut-être entrer en contact avec le notaire qui a rédigé le testament pour savoir s'il y a possibilité d'en obtenir une copie. Primo. Deuxièmement, pour éviter beaucoup de frais et très onéreux, parce que je disais tantôt là, que ça peut prendre 2-3 ans de procès, si on va à procès là, pour poursuivre la dame, parce que pour être capable de faire valoir ses droits, ça va coûter cher en bébite. Alors donc, on pourrait faire très très mal aux sous que le père pourrait léguer aux enfants. La meilleure solution, et ça existe depuis déjà fort longtemps au Québec, on appelle ça la médiation successorale. Donc, au lieu d'aller soumettre ça à un juge, là, on demande à un tiers qui est impartial de résoudre le problème, et là, on va appliquer la règle de droit qui est prévue dans la loi. Ben, en fait, ce que l'on veut faire, c'est justement de pas impliquer trop la loi dans la succession, mais plutôt le droit que les gens ont à cette succession-là. C'est-à-dire qu'on va privilégier la personne avant la loi. Okay. Donc, ça serait peut-être mieux de à ce moment-là d'avoir une médiation. Ça va coûter entre 250-300 $ fort probablement, mais ça vaut la peine en bébite parce que ça va éviter des conflits qui risquent de durer extrêmement longtemps.
Tu voulais me parler aussi des primes en assurance automobile qui sont en forte hausse cette année.
J'ai reçu, l'idée m'est venue la semaine dernière quand j'ai reçu mon renouvellement de prime d'auto. Écoute, 30% d'augmentation.
J'ai 30%?
Dit, wow! J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que ça faisait 3 ans que j'avais pas eu d'augmentation. Et là, je me suis fait expliquer bien comme faut par mon assureur qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, c'est sûr que j'ai négocié et j'ai réussi à avoir une réduction de prime, là, mais il faut prendre le temps. D'abord, faut remettre à jour nos informations personnelles, puis n'oubliez rien. Habituellement, il y a un questionnaire assez complet qui vous est fourni par l'assureur, et là, on va vous demander les informations comme personnelles, qu'est-ce que vous faites comme profession, votre niveau de scolarité, est-ce que vous fumez ou pas, parce qu'on va tenir compte de tous les risques, et l'un des risques, tout le monde est surpris de se faire demander, est-ce que nous pouvons accéder à votre dossier de crédit? Je sais pas si tu l'as déjà fait demander. Moi, je dis oui de toute façon. Oui. C'est parce que le problème, lorsqu'il y a eu la récession, si je ne me rappelle bien, de 1998, les assureurs sont aperçus que les personnes qui avaient une très, très basse cote de crédit, c'est-à-dire qui étaient donc presque pas solvables, étaient ceux qui faisaient le plus de réclamations. Je pense qu'à cette époque-là, il y en a qui avaient des gros camions, l'essence est montée à 1,50 $, il n'y avait plus d'argent pour payer le loto ou le camion.
Ça donne mal, il y a eu des problèmes, puis il est pris en feu.
Il y a eu des problèmes, puis il est pris en feu. Alors donc, on a mis une clause. Est-ce qu'on peut accéder à votre carte, votre dossier de crédit. Pourquoi on fait ça? C'est justement pour voir si votre dossier de crédit est excellent, vous n'aurez pas de problème. Si votre dossier de crédit est très bas, vous risquez d'être un risque supplémentaire, ça va vous coûter plus cher. L'autre, c'est le modèle assuré. Assurez-vous de donner toutes les informations sur le modèle, bien entendu, l'historique du sinistre pour ce type de véhicule-là. Est-ce que vous avez déjà fait des réparations, des réclamations? Est-ce qu'il a déjà été sinistré? Et habituellement, on va vous demander, est-ce que vous avez eu des réclamations au cours des 5 ou 6 dernières années? Si la réponse est non, de toute façon, dites-le parce qu'ils vont le vérifier. Eux, ils ont accès justement à la base de données des assureurs et ça va leur permettre justement de vérifier si vous dites la vérité ou pas. L'utilisation que vous en allez en faire aussi, ça aussi, ça va venir influencer. Qui va conduire et qu'est-ce que vous faites avec vos véhicules? Est-ce que c'est strictement pour la promenade? Si c'est strictement pour la promenade, ça va vous coûter tel prix. Si vous vous en servez pour vous rendre à votre travail, ça va augmenter le prix. Et si vous en servez pour travailler, c'est-à-dire que vous êtes travailleur autonome et vous servez de votre véhicule, là aussi, ça risque d'avoir une augmentation. Votre expérience de conduite également. Est-ce que vous avez perdu, avez eu des points de démérite au cours des dernières années? Et là, je veux amener l'histoire du cannabis ici.
Okay.
C'est-à-dire qu'à partir de mercredi prochain, la drogue, donc, à partir du cannabis, sera légale. Mais attention, ici au Québec, ce sera tolérance zéro. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit de conduire votre véhicule, ne serait-ce qu'avec une parcimonie de THC dans votre salive, ça va être une offense, la même chose que si vous êtes fait prendre avec l'alcool au volant. Donc, tolérance zéro, avec l'alcool, c'est 0.08, mais là, pour le THC, ça va être zéro. Et là, ça pourrait venir entacher justement votre dossier d'assurance. Et lorsque vous êtes condamné pour c'est un acte criminel, ça va être la même chose que l'alcool, ça va être un acte criminel. Vous allez avoir de la difficulté à vous assurer par la suite. Ça risque de vous coûter extrêmement cher.
C'est ça que j'allais ajouter. Ceux qui veulent, ceux qui vont vouloir s'assurer, vous assurer, là, vous allez payer à total.
Ah, non, ça va être, ça va du double au triple même. Alors donc, faut faire attention. Et bien sûr, le lieu de résidence. Alors, est-ce que vous avez habité un endroit où il y a eu des vols, du vandalisme fréquent? Ça aussi, ça va venir faire grimper. C'est pour ça que les assureurs vont déterminer des zones. Et chaque assureur a sa façon de faire. Donc, magasiner, je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de magasiner. Ou quand vous recevez une petite surprise comme celle que j'ai eue cette semaine, vous prenez le téléphone, puis vous demandez des explications, puis vous dites, ben regarde, j'ai magasiné un peu, là, puis il me semble qu'ailleurs, c'est pas mal moins cher. Des fois, ils vont réfléchir avant de vous laisser partir, surtout quand vous êtes un client régulier.
Et tu fais bien de le dire, puis je pense entre autres, puis on l'a vu là, chez les propriétaires de camions, là, les camionneurs qui ont dit, il y a de moins en moins de compagnies qui les assurent. Et ceux qui sortent du Québec ou qui vont en Ontario ou qui vont aux États-Unis, eux, ils te l'ont eu la totale. C'est du simple au double, carrément, leur prime.
Ah non, ça c'est clair. Parce que ça aussi, il faut le dire, hein, parce qu'ils vont vous poser la question, est-ce qu'au cours de la prochaine année, vous allez sortir du Québec, particulièrement aux États-Unis? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre. Surtout pour les snowbirds, là, c'était extrêmement important.
Merci François, salut bien.
Fait plaisir, à la semaine prochaine, au revoir.
À la semaine prochaine, François.Gagnon@985fm.ca si vous avez des questions pour lui.